Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La pierre de Mazarin. Vous êtes absolument une glace sans teint. Je lis en vous jusqu'au fond de votre âme.
Alors vous savez où est le diamant ?
Holmes se battit des mains et leva un doigt ironique. « Donc, vous le savez, vous venez de l'admettre. »«
Je n'ai rien admis !»«
Allons, comte, si vous êtes raisonnable, nous pouvons faire affaire. Sinon, il vous arrivera malheur. » Le comte Silvius leva les yeux vers le plafond.
« Et c'est vous qui parlez de bluff ! »
soupira-t-il. Holmes le regarda pensivement comme un champion d'échecs qui médite son échec et mat. Puis il ouvrit le tiroir de la table et sortit un gros carnet. « Savez-vous qui je tiens dans ce livre ?»«
Non, monsieur, pas du tout. »«
Eh bien, vous. »«
Moi ?»«
Oui, monsieur, vous. Vous êtes tout entier ici par chaque vilenie de votre vie. »«
Dieu me pardonne, Holmes !» s'écria le comte. « Ma patience a des limites. »«
Tout y est, comte. » Les faits réels concernant la mort de la vieille Madame Harold, qui vous avait légué le domaine de Blimer, domaine que vous avez dilapidé au jeu.
Mais vous rêvez!
Et toute l'histoire de la vie de Mademoiselle Minnie Varander.
Vous ne pouvez rien en faire!
Ici, je trouve beaucoup mieux, comte. Par exemple, le vol commis dans le train de luxe de la Riviera le 13 février 1892. Voici le faux chèque tiré la même année sur le Crédit Lyonnais.
Ah non, non là vous faites dans l'erreur.
Je suis donc dans le vrai pour le reste. Allons, comte, vous êtes un joueur de cartes. Quand votre adversaire possède tous les atouts, vous n'avez plus qu'à jeter vos cartes.
Quel est le rapport entre tout ce bavardage et le joyau dont vous m'avez parlé ?
Doucement, comte. « Modérez votre impatience, laissez-moi marquer les points à ma manière. Je possède déjà tout cela contre vous, mais surtout j'ai un dossier parfait contre vous et votre garde du corps dans l'affaire du diamant de la couronne. »«
Ah, vraiment ?»«
J'ai le cocher qui vous a conduit à Whitehall et le cocher qui vous a ramené. J'ai le commissaire qui vous a vu près de la vitrine. » « J'ai Ike Saunders qui a refusé de le débiter pour vous. Ike a mouchardé. La partie est terminée. » Les veines se gonflèrent sur le front du comte. Ses mains brunes, poilues, se crispèrent sous l'effet d'une violente émotion contenue. Il essaya de parler, mais les mots ne se façonnèrent pas dans sa bouche. « Voilà la main avec laquelle je joue, » dit Holmes. « J'ai abattu mes cartes sur la table. Il me manque une carte, le roi de carreaux. Je ne sais pas où est le diamant. »«
Vous ne le saurez jamais !»«
Non ? Allons, comte, soyez raisonnable. Considérez la situation. Vous allez être sous clé pendant 20 ans. Sam Merton également. Que tirerez-vous de votre diamant pendant ce temps-là ? Bien, rien du tout. » « Mais si vous le rendez, eh bien, je pactiserai avec le crime. Nous ne voulons pas, vous, ni Sam. Nous voulons la pierre. Rendez-la nous, et tout au moins en ce qui me concerne, vous partirez libre et vous le resterez tant que vous vous comporterez honorablement dans l'avenir. Si vous commettez une nouvelle faute, tant pis, elle sera la dernière. Mais cette fois, j'ai mandat de récupérer la pierre, pas de vous mettre sous les verrous.
» Et si je refuse ?
Eh bien, malheureusement, si je n'ai pas la pierre, vous paierez. Billy avait paru en réponse à un coup de sonnette. Je pense, comte, qu'il ne serait pas mauvais que votre ami Sam assiste à cet entretien. Après tout, ses intérêts sont en jeu. Billy, vous verrez devant la porte un gentleman gros et laid. Priez-le de monter.
« Et s'il veut pas, monsieur ?»«
Pas de violence, Billy, ne le brutalisez pas. Si vous lui déclarez que le comte Silvius le réclame, il montera tout de suite. »«
Et qu'allez-vous faire maintenant ?»
interrogea le comte quand Billy eut disparu. « Mon ami Watson vient de me quitter. Je lui ai dit que dans mon filet, j'avais un requin et un goujon. Maintenant, je lève mon filet et hop, je les remonte tous les deux. » Le comte s'était dressé et il avait porté la main à son dos. Holmes me fit pointer dans sa direction un objet qui faisait une bosse dans la poche de sa robe de chambre.
« Vous ne mourrez pas dans votre lit, Holmes !»
J'ai eu souvent la même idée. « Oh, est-ce si important de mourir dans son lit ? Après tout, comte, votre propre sortie de ce monde sera plus vraisemblablement verticale qu'horizontale. Mais finissons-en avec ces anticipations morbides. Pourquoi ne pas nous abandonner sans remords aux joies du présent ?» Un éclair, comme on en voit s'allumer dans les yeux des fauves, passa dans le regard du criminel. Plus Holmes se tendait et se préparait à tout, plus il semblait grandir aux yeux de son adversaire.
Il ne sert à rien de chatouiller votre revolver, mon ami, dit-il d'une voix calme. Vous savez pertinemment que vous n'oserez pas l'utiliser, même si je vous laissais le temps de tirer. Ce sont des instruments malpropres et bruyants, comte, les revolvers. Tenez-vous-en plutôt au fusil avant.
Ah, je crois que j'entends le pas de fée de votre estimable partenaire. Bonjour, monsieur Merton. Vous deviez vous ennuyer dans la rue, n'est-ce pas ?
Le boxeur était un jeune homme à lourde charpente qui avait l'air aussi stupide qu'obstiné. Il demeura gauchement à la porte et regarda autour de lui avec étonnement. Cette attitude débonnaire de Holmes le surprenait. Il se rendait compte, confusément, qu'elle était hostile, mais il ne savait pas comment la contrer. Il se tourna vers son camarade.
« Qu'est-ce que ça veut dire, comte ? Que nous veut ce type ? Que se passe-t-il ? »
Il avait la voix grave et rauque. Le comte haussa les épaules. Holmes répondit à sa place.
« Bien, pour résumer la situation, monsieur Merton, je dirais que tout est terminé. »
Le boxeur continua à s'adresser à son associé.
« Est-ce que ce pigeon essaie d'être drôle ou quoi ? Moi, j'ai pas envie de rire. »
« Je m'en doute, » fit Holmes. « Je peux même vous assurer que plus la soirée avancera, moins vous vous sentirez d'humeur riante. Maintenant, écoutez-moi, comte Silvius. Je suis un homme fort occupé, et je ne peux pas perdre de temps. Je vais dans ma chambre. Je vous prie de vous considérer ici comme chez vous en mon absence. Vous pourrez expliquer la situation à votre ami sans être gêné par ma présence. » « Je vais attaquer la barcarolle d'Hoffmann sur mon violon. Dans 5 minutes, je reviendrai pour entendre votre réponse définitive. Vous avez bien saisi l'alternative, n'est-ce pas ? Ou vous, ou la pierre. »
Holmes se retira en emmenant son violon. Quelques instants plus tard, les premières notes plaintives du plus obsédant de tous les airs jaillirent de l'autre côté de la porte fermée.
« Et que se passe-t-il donc ?»
interrogea Merton avec anxiété.
« Et il est au courant pour la pierre ?»«
Eh, il est au courant de beaucoup trop de choses à propos de la pierre. Je me demande s'il ne sait pas tout. »«
Oh, Seigneur !»
La figure maussade du boxeur blêmit. « Ike Sander nous a mouchardés. »«
Ah, il nous a mouchardés ? Ah, je jure que je l'étendrai pour le compte s'il nous a trahis. »«
Ce qui ne nous aiderait pas beaucoup. Il faut que nous décidions ce que nous allons faire. »«
Un petit moment !»
dit le boxeur en regardant d'un air soupçonneux du côté de la porte de la chambre.
« C'est un pigeon isolé qui demande qu'on s'occupe de lui, et je suppose qu'il nous écoute pas. »«
Et comment pourrait-il écouter en jouant du violon ?»«
Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a peut-être quelqu'un derrière un rideau. Je trouve qu'il y a beaucoup de rideaux dans cette pièce. »
Regardant à droite et à gauche, il aperçut pour la première fois le mannequin à la fenêtre. Il s'arrêta net, trop ahuri pour dire un mot.
« mais qu'est-ce, c'est une reproduction ?» lui expliqua le comte.
« Ah, un faux, quoi. Eh ben, Madame Tussaud n'en a pas autant, Oh, formidable, c'est craché, mais c'est rideau, comte. »
Oh, laissez tomber les rideaux. Nous perdons notre temps et nous n'en avons pas de trop. Il peut nous envoyer au bagne, Sam, avec cette pierre.
Ah, pour sûr qu'il le peut, si Ike nous a mouchardés.
Mais il nous laisse filer si nous lui disons où elle est.
Quoi ? Renoncer à la pierre ? Renoncer à 100 000 livres ?
C'est l'un ou c'est l'autre.
Merton se gratta la tête.
Ouais, il est seul ici. Y a qu'à entrer. Une fois débarrassé de lui, nous n'aurons plus rien à craindre.
Le comte fit signe que non.
Et il est armé, il est prêt. Si nous le touons, comment sortir d'un endroit pareil? Par ailleurs, il est probable que la police est au courant des preuves qu'il a réunies. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cela?
Un bruit vague sembla venir de la fenêtre. Les deux hommes écoutèrent, mais tout était calme. En dehors du mannequin assis sur son fauteuil, personne sûrement ne se trouvait dans la pièce.
« Il y a quelque chose dans la rue !»
dit Merton.
« Maintenant, à vous, patron, hein. C'est vous qui avez de la tête. Certainement, vous allez trouver un truc pour nous en sortir. Si la pierre sert à rien, c'est à vous de le dire. »«
J'ai possédé des types plus forts que lui !» dit le comte. « La pierre est dans ma poche. Je n'ai pas voulu courir le risque de m'en séparer. » Elle peut être sortie ce soir d'Angleterre et coupée en 4 morceaux à Amsterdam avant dimanche. Il n'est pas au courant pour Van Sedar.
Ah bon? Je croyais que Van Sedar partait la semaine prochaine.
Il devait partir seulement la semaine prochaine. Mais seulement il faut qu'il parte par le prochain bateau. L'un ou l'autre de nous doit courir avec la pierre à Lime Street et le voir.
Mais le fond truqué n'est pas prêt.
Qu'il prenne la pierre comme elle est et qu'il court sa chance. Nous n'avons plus un instant à perdre.
À nouveau, avec le sens du danger qui devient chez le chasseur un véritable instinct, il s'arrêta et regarda en direction de la fenêtre.
Oui, c'était sûrement de la rue qu'était venu le bruit de tout à l'heure. Quant à Holmes, poursuivit-il, nous pourrons le mystifier assez facilement. Cet imbécile ne nous fera pas arrêter s'il peut récupérer la pierre. Eh bien, nous lui promettrons qu'il aura la pierre. Nous le mettrons sur une fausse piste, et avant qu'il s'aperçoive que la piste est fausse, la pierre sera en Hollande et nous au diable.
Ouais, pas mal, patron,
s'écria Sam Merton. Vous allez partir et dire au Hollandais qu'il se dépêche. Moi, je vais voir 700 sous, et je le couperai avec une fausse confession. Je lui dirai que la pierre est à Liverpool, ou au diable, cette musique, elle me porte sur les nerfs. Pendant qu'il constatera qu'elle n'est pas à Liverpool, elle sera à Amsterdam, et nous sur l'eau bleue. Revenez ici ensuite, voici la pierre.
Je me demande comment vous osez la porter sur vous.
Où serait-elle mieux en sécurité? Puisque nous avons pu la voler à Whitehall, quelqu'un d'autre pourrait aussi bien la voler chez moi.
Ouais, et laissez-moi la regarder un peu.
Le comte Silvius couvrit son complice d'un regard peu flatteur et dédaigna la main malpropre qui se tendait vers lui.
Ouais, eh bien, et vous croyez que je vais la garder pour moi? Dites donc, mister, je commence à être un peu fatigué de vos manières.
« Allons, Sam, je ne voulais pas vous froisser. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'une querelle en ce moment. Mettez-vous près de la fenêtre si vous voulez voir convenablement le joyau. Levez-le à la lumière. Là !»«
Oh, et merci !»
D'un bond, Holmes avait sauté du fauteuil du mannequin et s'était emparé du précieux joyau. Il le tenait dans une main et de l'autre, il pointait un revolver vers la tête du comte. Les deux bandits reculèrent, stupéfaits. Avant qu'ils se fussent repris, Holmes avait sonné.
Pas de violence, messieurs, aucune violence, s'il vous plaît. Respectez mes meubles. Votre situation est sans issue. La police attend en bas.
La stupéfaction du comte l'emporta sur la peur et la colère.
Mais comment diable ?
Balbutia-t-il. Votre surprise est tout à fait normale. « Vous ne saviez pas qu'une deuxième porte de ma chambre ouvrait derrière ce rideau. J'ai eu peur que vous m'ayez entendu quand j'ai déplacé le mannequin, mais la chance était avec moi, ce qui m'a donné l'occasion d'écouter votre conversation distinguée, laquelle aurait été contrariée si vous vous étiez douté de ma présence. »
Le comte fit un geste de résignation.
« À nous vous donnons gagnant, Holmes. Je crois que vous êtes le diable en personne. »
« Sinon lui, du moins, un de ses proches parents, » répondit Holmes avec un sourire poli.
L'esprit lent de Sam Merton commençait à réaliser la situation. Comme des pas pesants se faisaient entendre dans l'escalier, il rompit enfin le silence.
« Oh là, un drôle de flic » fit-il. « Mais je comprends pas, cette rengaine, là, je l'entends encore.
Yeah, oui, vous avez parfaitement raison, répondit Holmes. Le violon continue à jouer. Ces gramophones modernes sont une invention remarquable. La police fit irruption. Les menottes se refermèrent sur les poignets des criminels. Ceux-ci furent emmenés vers le fiacre qui attendait en bas. Watson demeura avec Holmes et le complimenta sur le nouveau laurier qu'il venait d'ajouter à sa couronne. Mais leur conversation fut interrompue par l'imperturbable Billy, qui entra avec une carte de visite sur un plateau.
« Lord Cantlemere, monsieur !»«
Faites-le monter, Billy. Voici le père éminent qui représente de très hauts intérêts, dit Holmes. C'est un excellent personnage, très loyal, mais qui date légèrement. L'assouplirons-nous un peu ? Oserons-nous prendre avec lui certaines libertés ? Il ne sait certainement pas ce qui vient de se passer. » La porte s'ouvrit sur un homme maigre, au visage austère, taillé à coups de hache, paré d'énormes favoris noirs mi-victoriens, qui s'harmonisaient assez mal avec les épaules voûtées et la taille mince. Holmes s'avança avec affabilité et serra une main molle.
« Comment allez-vous, Lord Cantlemere ? Il fait frais pour cette époque de l'année, mais dans un appartement, la température est assez douce. Voulez-vous retirer votre manteau ?»«
Non, merci, je le garde sur moi. »
Holmes me posa une main insistante sur la manche. « Je vous en prie, permettez-moi. Mon ami le docteur Watson vous dirait que ces changements de température sont traîtres. » Sa seigneurie se libéra avec quelque impatience.
« Je suis très bien, monsieur. D'ailleurs, je ne reste pas. Je suis simplement entré pour savoir si votre enquête progressait. »
« Bien, elle est très difficile, monsieur, très, très difficile.
»« Je pensais bien que vous la trouveriez difficile. »
Le ricanement perçait sous les paroles et l'attitude du vieux courtisan.
« Chacun d'entre nous découvre ses limites, monsieur Holmes, mais au moins cette découverte guérit-elle d'une faiblesse humaine, la satisfaction de soi-même. »«
Oui, monsieur, je suis très embarrassé. »
« Je n'en doute point. »«
Spécialement sur un point. Peut-être consentiriez-vous à m'aider ?»«
Vous me demandez conseil un peu tard aujourd'hui. Je croyais que vos méthodes suffisaient à tout. Toutefois, je suis disposé à vous aider. »«
Voyez-vous, Lord Cantlemere, nous pourrons sans aucun doute constituer un dossier contre les voleurs. »«
Quand vous les aurez pris ?»«
En effet. » Mais la question qui se pose est « Comment opérerons-nous contre le receleur ? »
« N'est-ce pas un peu prématuré ?»«
Il vaut mieux que nos plans soient tous prêts. À votre avis, quelle preuve pourrait être considérée comme formelle contre le receleur ?»«
Quelle preuve ? Eh bien, qu'il ait réellement la pierre en sa possession. »
« Cela vous paraît suffisant pour le faire arrêter ?»«
Bien, naturellement. »
Holmes riait rarement, mais cette fois il approcha vraiment du gros rire.
« En ce cas, mon cher monsieur, je vais être sous la pénible nécessité de vous faire arrêter. »
Lord Cantlemere se mit très en colère. Ses joues creuses se colorèrent de vieilles flammes qu'on aurait pu croire irrévocablement éteintes.
« Vous prenez de grandes libertés, monsieur Holmes. En 50 années de vie officielle, je ne me souviens pas d'une audace analogue. » Je suis fort occupé, monsieur, engagé dans des affaires importantes, et je n'ai ni le goût, ni le temps de plaisanter stupidement. Je tiens à vous dire, monsieur, que je n'ai jamais cru en vos facultés, et que j'ai toujours considéré que l'affaire aurait été bien mieux menée par la police régulière. Votre comportement confirme toutes mes conclusions. J'ai l'honneur, monsieur, de vous souhaiter le bonsoir.
Avec vivacité, Holmes s'était déplacé, et il s'était interposé entre le père et la porte.
« Un moment, monsieur, lui dit-il. Partir pour de bon avec la pierre de Mazarin serait un crime beaucoup plus grave que d'être trouvé en sa possession provisoire. »«
Monsieur, voici qui est intolérable. Laissez-moi passer. » »«
Plongez la main dans la poche droite de votre manteau. » »«
Que voulez-vous insinuer, monsieur ?»«
Allons, allons, faites ce que je vous dis. »
Dans la minute qui suivit, le père demeura pétrifié, clignant des yeux et bégayant, avec la grosse pierre jaune dans la paume de sa main tremblante.
« Comment, quoi, monsieur Holmes ? »
C'est trop fort, Lord Cantlemere, trop violent, n'est-ce pas ? S'écria Holmes. Mon vieil ami Watson vous dira que les farces sont chez moi une habitude impie, et aussi que je ne résiste jamais au plaisir de créer une situation dramatique. J'ai pris la liberté, une très grande liberté, j'en conviens, de mettre la pierre dans votre poche tout au début de notre entretien. Le vieux lord regarda le visage souriant de Holmes.
Monsieur, je suis émerveillé, mais oui, c'est bien la pierre de Mazarin. Nous sommes grandement vos débiteurs, monsieur Holmes. Votre sens de l'humour peut, comme vous en avez convenu, être un tant soit peu déplacé, et ses manifestations remarquablement hors de propos. Du moins, je retire tout ce que j'ai pu dire sur vos stupéfiantes qualités professionnelles. Mais comment ?
Les détails attendront. Je ne doute pas, Lord Cantlemere, que le plaisir que vous prendrez à raconter l'heureuse issue de cet incident dans les milieux supérieurs que vous allez retrouver rachètera quelque chose de ma mauvaise plaisanterie. Billy, voulez-vous reconduire sa seigneurie et avertir Madame Hudson que je serai heureux si elle nous montait le plus tôt possible un dîner pour deux ?